خويا أرسلان مرحبا بك بونجور سلام. Galère présente
les Harragas de Marseille.
Patatou. Bienvenue dans l'émission Harragas en compagnie de Kamar et Arslan. Harragas.
Patatou.
Bonjour, René Naba, émission Harragas dirigée par Kamar Idir. Ma chronique, revue de presse halal sur des sujets haram.
السلام عليكم راكم مع جماعة الحراقة هنا في إذاعة غالير
ليميسيون حراقة لا فوا دي سان فوا دي زيشوي دو لا في إل في أبل على لا رو كي لا انتربيل.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et la chronique de René Naba. C'est une revue de presse halal sur des sujets haram.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Harragas de Marseille. Bakhir Harraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18 heures, M. Sa'ala Rabia Hatersa. Bonjour tout le monde. Azul Flaoun. Oui, vous êtes toujours avec la compagnie des Harragas. C'est Idir qui vous parle. Hakdaya. On est déjà août, hein? Eh oui, on est déjà août. Donc, on va donner la parole à notre René Naba, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. La voix off, ça sera de Dominique. Hakda, akadou ma'ana, hta l'sta. Restez avec nous jusqu'à 18h. À 18h, on laisse notre créneau à d'autres émissions. Ok? Allez, à tout à l'heure.
Chronique de René Naba, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient.
Au terme du G7 à Hiroshima, le président Emmanuel Macron s'est rendu en Mongolie pour établir un partenariat stratégique avec ce pays, enclavé entre la Chine et la Russie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Mongolie était le lieu de destination des ambassadeurs français en déconfiture. Et voilà que ce pays est érigé en partenaire stratégique de la France, alors que le moindre éternuement de la Chine voisine pourrait provoquer un ouragan destructeur sur ce pays de 600 000 habitants. La presse française a repris la thématique présidentielle sans le moindre recul, de la même manière qu'elle avait repris l'idée que la France exerçait une fonction d'équilibre en s'alliant à l'Arabie Saoudite, pourtant agresseur du Yémen. La France, une puissance d'équilibre, est en fait une puissance en perte d'équilibre. Gardons-nous des analyses apologétiques de la diplomatie française qui nous mènent droit dans le mur en klaxonnant.
Deuxième séquence de notre chronique d'été pédagogique, la projection internationale de la France après dans le contexte des violences policières. Il vous en souvient, en mars, le président Emmanuel Macron a prêté son avion à Volodymyr Zelensky pour se rendre au sommet arabe de Jeddah, puis à Hiroshima. Tout le monde s'est émerveillé. Mais personne n'a eu du recul pour voir un peu dans quel contexte, qu'est-ce que ça a donné. Mais je vais vous décrypter ça dans la revue de presse Halal sur des sujets haram, dans le programme de la séquence des Kamaridir Haraga. Volodymyr Zelensky est arrivé à Jeddah, au sommet arabe de Jeddah, d'Arabie Saoudite, et il a fait un discours invitant les États arabes à manifester la solidarité avec, pas la Crimée, l'Ukraine, avec les musulmans d'Ukraine. Les musulmans d'Ukraine, c'est 2000 musulmans en Ukraine, complètement oubliés par Zelensky lui-même. Mais démagogiquement, il fallait jouer la corde sensible. Il a invité les Arabes à manifester leur solidarité avec les musulmans d'Ukraine, au moment même où Israël se livrait à une violente répression sanglante des Palestiniens à 100 km de là. Les musulmans de Crimée, 2000 personnes, sont à 5000 km du monde arabe. Les Palestiniens à Jeddah sont à 100 km à vol d'oiseau. Il n'a pas eu un mot. La presse française bien pensante a dit la visite de Zelensky un succès pour Macron et elle a torpillé l'entrée et le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Ils n'ont pas compris que pour que la Syrie retourne dans le monde arabe, il y a eu une telle pression américaine et concernant des Occidentaux pour empêcher l'Arabie Saoudite de favoriser ce retour, que l'Arabie Saoudite a donné un os à ronger à Macron et à Biden en leur disant on va balader Zelensky. Il n'a qu'à venir, il a fait son discours un quart d'heure, pas plus, ils lui ont dit pas plus d'un quart d'heure, il a dégagé. Personne n'a compris, tout le monde a cru qu'on a. Mais Assad est retourné à la Ligue arabe, la Syrie est de nouveau dans la Ligue arabe pour une période indéfinie. Khalas. Zelensky à Jeddah, c'est un quart d'heure et tout le monde a oublié ce qu'il a dit. Sauf si c'est moi que je ne vous rappelais pas. Et personne ne sait qui sont les musulmans de Crimée. Les musulmans de Crimée, 2000 personnes. Hein. Durant toute la guerre de Crimée, d'Ukraine, personne n'en parle. Jusqu'à maintenant, personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc ça a été un peu fini. Il est parti ensuite, Zelensky, avec l'avion présidentiel français, ça coûte cher pour les contribuables français, mais enfin, ça fait un prestige d'égo pour Macron qui faisait oublier les violences consécutives aux retraites. Zelensky a été à Hiroshima. À Hiroshima, il a fait cette déclaration éternellement immortelle. Il a dit Hiroshima et Bakhmout, ce sont deux mêmes cas de figure. Tout le monde a dit Hiroshima, Bakhmout, c'est le même. Le hmar, comme on dit en arabe. Mais Hiroshima n'est pas. Hein? Anne, battez, comme on dit en français.
Arioulum berber.
Hiroshima n'est pas le fait des Russes, c'est le fait des Américains. Il compare la barbarie des Américains à Bakhmout. C'est pas. Il voulait stigmatiser les Russes, il a stigmatisé ses principaux souteneurs, pas son soutien, souteneurs. Et tout le monde s'est émerveillé. C'est pour vous dire que la presse française a perdu son recul et de son esprit critique, et ce qui permet qu'on justifie tout le temps, on fait des cagnottes pour un policier meurtrier de Naël, mais on ne s'étonne pas, on n'est pas choqué de ce geste-là, et on n'a pas l'esprit critique de dire « mince, Hiroshima, c'était les Américains », c'est malvenu cette comparaison. Mais comme il est de bon ton de déifier Zelensky, comme on avait déifié auparavant la Géorgie du temps de Sarkozy, bon, on va droit dans le mur. Qu'est-ce qui se passe après le sommet d'Hiroshima? Emmanuel Macron a été en Mandchourie. Il a dit que c'est pour établir un partenariat stratégique avec la Mandchourie. Pardonnez-moi, la Mandchourie, c'est un pays de 600 000 habitants, coincé entre la Chine, 1,5 milliard d'habitants, et la Russie, 400 millions d'habitants. 600 000 d'habitants, il n'y a ni atome, ni uranium, ni lithium. Il va faire un partenariat stratégique avec la Mandchourie. Ça vous dit l'étendue de la récession de la présence de la voilure diplomatique française. Il va faire un partenariat stratégique avec un pays de 600 000 habitants, aussi important que les Comores, hein, coincé entre la Chine, qui souffre, qui éternue. Il y a une tempête dans la Mandchourie. Et en plus, la Mandchourie, pour la diplomatie française, pendant 50 ans, 60 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Mandchourie, c'était pour un ambassadeur défaillant, on l'envoyait en Mandchourie. C'était en punition. Allah, maintenant, Macron trouve que c'est un potentiel... C'est quoi ça? Partenariat. C'est pour vous dire que la France, elle cherche un point d'appui quelque part, elle n'en a plus, elle est en état d'apesanteur. Pire que ça. Mais tout le monde, tous les journaux, Le Monde, Libé, le Figaro, toutes les chaînes de télé ont dit partenariat stratégique. Personne n'a mesuré de dire, mais c'est 600 000 habitants, quelle est sa marge de manœuvre face à la Chine et à la Russie. C'est pareil qu'il y a 4 mois, lorsqu'il a été en Arabie Saoudite pour rencontrer le meurtrier de Khashoggi, le prince héritier, il a dit « La France est un pays en puissance d'équilibre. Il joue les équilibres dans les régions. » Et tout le monde a abondé dans ce sens-là. Personne n'a dit « Mais l'Arabie Saoudite, c'est pas un pays d'équilibre. » L'Arabie Saoudite, c'est le pays qui a déclenché une agression avec 7 pays arabes ou musulmans contre le Yémen, le plus pauvre pays arabe. Donc la France n'est pas un pays d'équilibre, est un pays de soutien aux agresseurs. C'est un des grands pays qui ont soutenu matériellement l'Arabie Saoudite. Et la base militaire d'Abu Dhabi, française d'Abu Dhabi, en connexion avec la base militaire française de Djibouti, ont établi une jonction pour favoriser le débarquement des troupes d'Abu Dhabi en Yémen du Sud, pour éviter un désastre permanent des troupes pétromonarchiques contre le Yémen, contre des va-nu-pieds, contre le plus pauvre pays arabe. Donc on en arrive à la situation que la France s'accroche à des lianes de désespoir en Mandchourie pour faire un partenariat stratégique, en se présentant comme une puissance d'équilibre en Arabie Saoudite, alors qu'elle est une puissance qui soutient l'agression. On en arrive à cette conclusion, mais on doit le dire parce que c'est comme ça qu'on doit faire une révision déchirante de notre approche des relations internationales de la France. J'en parle en tant que Français, soucieux de ne pas mettre de la poudre aux yeux. La France est un pays en perte d'équilibre et il est du devoir des journalistes d'exercer une fonction critique sur toutes les actions, sur tous les actes ou sur les propos de la diplomatie française pour éviter de nouvelles bévues, d'autant plus douloureuses que la France, qui est un allié de la États-Unis et des Royaumes-Unis, membre de l'OTAN, membre permanent du Conseil de sécurité, a été exclue de la Pacifique avec l'accord AUKUS, Amérique, Australie, Royaumes-Unis, États-Unis, pour fournir à l'Australie des sous-marins nucléaires face à la Chine. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'il nous faut un devoir de vérité, et c'est une exigence morale pour éviter de nouvelles répétitions. C'est un pays qui a connu 8 capitulations. J'ai honte de le dire. Nous sommes le seul pays au monde à avoir fait ça. Et à chaque fois, on change de régime, on change de république, on ne s'en sort pas. Mais c'est pour ça qu'on est en panne de projet. Le projet républicain pour les banlieues, d'abord, c'est investir. On a, pendant 20 ans, on a eu des présidents favorables au grand capital, que ce soit François Hollande, qui a ouvertement dit lors de sa mission que je ne suis pas un socialiste, mais un social-démocrate. Auparavant Sarkozy, maintenant Macron, c'est un candidat de la banque, de la grande banque. On a pratiqué une politique de désindustrialisation de la France, de délocalisation, de déréglementation pour la privatisation et de délocalisation. Ça a appauvri, ça a accentué le chômage, ça a appauvri les régions périphériques de la France et ça a déconstruit le tissu social, mais ça a enrichi le grand capital. Un exemple, on a fait une réforme des retraites qui a été très mal vécue par la population. Cela fait 4 ans que le CAC 40 perçoit des dividendes de l'ordre de 45 milliards à 50 milliards d'euros par an des détenteurs des capitaux. Il suffit d'une année qu'on passe les dividendes du capital, qu'on les verse à la caisse de la retraite sociale pour résorber le déficit de la caisse des retraites. Une année pour résorber aussi la caisse de la sécurité sociale. Et on aurait eu une réforme beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. On aurait investi massivement dans la recherche scientifique. N'oubliez pas que la France est le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité qui n'a pas trouvé un vaccin contre le Covid, alors qu'il y a des pays du tiers-monde qui n'ont pas le même capital scientifique ni capital financier que la France, tel Cuba, ont trouvé un vaccin contre le Covid. La France est le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité qui n'a pas trouvé un vaccin contre le Covid, alors que Cuba l'a trouvé. Et il suffit d'investir dans la recherche scientifique, dans une politique d'urbanisation des banlieues et de la prospérité. Marseille en est un exemple. Ça fait 3 fois que Emmanuel Macron vient. Il faut revivifier les banlieues, non pas les laisser s'appauvrir, et développer les écoles, faire un effort massif d'instruction, de pédagogie, d'amélioration, non seulement le parc immobilier des écoles, mais des conditions salariales des professeurs, des enseignants, des accompagnateurs. Développer les activités sportives, pédagogiques, qui est une meilleure antidote à la désœuvrance et à la dérive des banlieues vers des plaisirs un peu plus artificiels. Et c'est comme ça qu'on évitera la répétition de ces crises-là. Il y a un sursaut républicain qui doit se faire au niveau de la formation de la police. Ça ne doit pas être un tremplin pour les ambitions présidentielles des uns et des autres. Ça ne doit pas être aussi un défouloir des tendances fascisantes d'une fraction de la population française qui veut se rabattre, faire suer le bourgnos dans sa nouvelle version, qui sont les LBD, les grenades lacrymogènes. Ça suffit contre les gilets jaunes, contre les manifestations de la retraite et maintenant contre les banlieues. Un sursaut républicain au niveau de la formation républicaine de la police, au niveau des investissements républicains de la République. Wassalamu alaikum. La troisième volée, qui interviendra le 17, je voudrais le consacrer à l'Afrique, parce qu'il y a un événement majeur pendant que vous bronzerez durant l'été. Il y a un événement majeur qui va se dérouler en Afrique et qui va bouleverser la hiérarchie des puissances dans l'ordre du monde. À la semaine prochaine, 17 août.
Asma khoya, ferajen arbi. Farah ndirou hnaya fdinya hnaya. Fait lazem naawnou la fami. La drahem la khadma. Farah nzoujou, chnou mstaqbel lina. Chnou mstaqbel lina hmwad, chnou mstaqbel lina. Ah, tu veux comme ça?
Dans la tête d'un jeune beurre, originaire de Barbacha, dans la petite Kabylie, une mechta karom, les figues, les olives, ses arômes, les hainouts, la douane, les excédents de bagages, cette coutume, ce mode de vie auquel on s'attache, la population assommée par le prix du kilo de viande, au casse-pipe, même pour un boro. Jeune hétis dans la contrebande, Athénée le carreau, des rimes boro. Ennui à s'en taper la tête dans le hét, y'a pas de boulot. La misère dans la rue, la devise, les devises, avant les deux bises, la bouche pleine chemin. Qu'est-ce que tu feras plus tard? T'es plus un jeune, t'as plus de 20 ans, et t'as même pas un chez toi, un archétane. Tu camberges entre deux pannes, au courant ou au courant. Ça reste incomparable avec le vécu de nos grands-parents, qui nous alimentent de leur savoir-vivre. Un trésor dans ce monde crapuleux, on leur a inculqué les valeurs très jeunes. La plupart illettrés ont vécu 8 ans de guerre violente, la famine, le peuple engagé, au congé, la mort près, perdu des proches, vont arracher notre liberté, la fierté, le moudjahidine. Tout le sang coulé lors de la bataille d'Alger. A tous les pères familles âgées qu'on a bavé. Pour le moral qui dégringole avec l'économie du pays. Chaque fois qu'on augmente le SMIC en France, au bled, ce qu'on augmente c'est le SMIC. Éduque les nôtres avec une IA. Un homme qui se consacre pas à sa famille n'en est pas un. La religion rallie la communauté qui surpasse pour vivre tout est réel. Comment ne pas penser à Paris? Le manque de redmar, l'ennui, le stress, l'envie de bien faire.
Dans la tête d'un jeune beurre.
Algérien, musulman, frère, montrer du doigt mais fier.
Dans la tête d'un jeune beurre.
Pour la famille on souffre, assume ce qu'on est jusqu'au dernier souffle.
Dans la tête d'un jeune beurre.
On pense à Redois, à fonder une famille, au visa ou au papier militaire. À nos anciens qui ont connu la guerre.
La première vague d'immigrés a servi à reconstruire la France.
Pour des maudits qui sonnent
dans les travaux publics, pas feignants quand le réveil sonne.
Et regarde nos anciens, on dit non. Reste vos pères qui construisent des maisons au plaid dans 10 ans, s'il le faut. Plus la guerre méprisée, indésirable. À la télé y'a que des robes sans câble. Branche câblé sur El Jazeera et les chaînes du bled, comme au bled. Là-bas ils s'imaginent qu'ici c'est le club net. Si ils savaient que c'est plus galère que la file d'attente du consulat quand tu postules à un emploi. Qui veut croire en quoi? Alhamdoulilah, à la fois ce qui nous aide à tenir. Ça me rappelle une phrase que j'ai vue sur un mur du bled. Mais où est notre avenir, hein?
Jeune migré.
Un coup de fil du pays, une commande, ils veulent des vêtements de marque. Chaque année un zinc débarque pour recommencer sa vie. Pas si bien que ça, quand ils voient que les bars sont remplis d'arabes. On a acquis mauvaise réputation. Nos mères s'inquiètent, sortir sans papier, synonyme complication. Un brin francisé, elle me demande quoi si je compte circonciser mes gosses. Voir chétane courtisé, c'est vrai. Certains veulent seulement une vie simple, se laisser guider par le livre saint. Voilà quelques fragments de ce qu'un jeune beurre ressent. Sa vie prend tout son sens autour des siens, frais des siens. Le manque de redma, l'ennui, le stress, l'envie de bien faire.
Dans la tête d'un jeune beurre.
Algérien, musulman, frère, montrer du doigt mais fier.
Dans la tête d'un jeune beurre.
Pour la famille on souffre, assume ce qu'on est jusqu'au dernier souffle.
Dans la tête d'un jeune beurre.
On pense à Redois, à fonder une famille, au visa ou au papier militaire. À nos anciens qui ont connu la guerre.
Une
pensée pour vous, Merdes, Babeloued, Alger, Harrach, Babzouar, Chamaneuf, Ouaran, Kmin, Hamri, Steve, Biskra, Annaba, Sidi Aish, Constantine, Blida, Mazouna, Tizi, Osralem, Jijel, Amezour, Boulemat, Sakut, Kendira, Tela, Yahdaden, CNS, Taasses, Batima, Abgayet.
Le manque de khodma, l'ennui, le stress, l'envie de bien faire.
Dans la tête d'un jeune beurre.
Algérien, musulman, frère, montrer du doigt mais fier.
Dans la tête d'un jeune beurre.
Pour la famille on souffre, assume ce qu'on est jusqu'au dernier souffle.
Dans la tête d'un jeune beurre.
On pense à Redois, à fonder une famille, au visa ou au papier militaire. À nos anciens qui ont connu la guerre.